RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Le journal, Xavier Besson.
Et à la une ce matin, Julien, l'incompréhension du Congo-Brazzaville, la République du Congo, qui fait partie des pays visés par Donald Trump et dont les ressortissants seront normalement à partir de lundi interdits d'entrer aux États-Unis. Le Tchad, lui aussi concerné, a décidé de mesures de réciprocité envers les citoyens américains. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo et cette rencontre hier, une première depuis 2018, entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu. Le Burundi, et vous entendrez Anissé Niyonkuru, opposant burundais, il dénonce la manière dont les élections municipales et législatives se sont déroulées hier. Reportage également ensuite avec les employés locaux de la force de l'ONU en Centrafrique. Ils ont manifesté hier à Bangui contre des licenciements qu'ils jugent abusifs. Et puis au Maroc, pays en pleine crise du bétail, le roi a demandé à renoncer au sacrifice traditionnel du mouton aujourd'hui pour la Tabaski. Préoccupée, l'Union africaine appelle Washington à avoir une approche plus consultative. Inquiète, les Nations unies sur les implications en termes de droit international. Les réactions n'ont pas manqué hier, après que le président américain a annoncé des interdictions d'entrée sur le territoire des États-Unis pour les ressortissants de 7 pays africains, 12 pays au total. Parmi eux, le Tchad, surpris et déçu, qui annonce des mesures de réciprocité pour les citoyens américains. Et le Congo-Brazzaville, où les autorités n'en reviennent pas et où la société civile s'inquiète de l'impact, notamment pour les étudiants sur place. Loïcia Martial.
Jeudi, la population congolaise s'est réveillée avec cette mauvaise nouvelle. S'adressant aux journalistes, le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala évoque un malentendu.
Cette décision, pour nous, en attendant que les services compétents au niveau diplomatique nous expliquent le type de démarche qu'ils vont faire vers les autorités américaines, Nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu, évidemment. Le Congo n'est ni un pays terroriste, n'abrite aucun terroriste, n'est pas connu pour avoir une vocation terroriste, donc nous pensons que c'est un malentendu.
Pour le ministre, des discussions devraient permettre de lever cette incompréhension. De son côté, Joe Washington Ebina, membre de la société civile, estime que cette décision est injuste.
C'est une décision lourde de conséquences dans la mesure où c'est un frein au rêve de beaucoup de jeunes Congolais qui aspiraient à apprendre aux États-Unis, qui aspiraient à découvrir la connaissance dans les universités américaines.
Les étudiants congolais aux États-Unis seraient à peine plus de 200 pour plus de 6000 en France. Un chiffre très bas que ne devrait pas craindre le président américain, selon la société civile. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Les États-Unis qui mènent en ce moment une médiation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et qui espèrent parvenir à un accord de paix entre les deux pays ce mois-ci. Un texte qui aborderait notamment la question des zones de l'Est congolais contrôlées par l'AFC M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda. L'Est congolais qui a été au centre des discussions hier à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu, deux hommes qui ne s'étaient quasiment pas parlé depuis l'élection présidentielle de 2018. Faut-il y voir un début de rapprochement entre deux adversaires politiques ? À Kinshasa, la correspondance de Paulina Zidi.
Une franche accolade entre les deux hommes pour commencer cette rencontre qui s'est terminée par un tête-à-tête. L'occasion de balayer un grand nombre de sujets, la crise sociale, la crise politique et surtout la crise sécuritaire que traverse le pays avec toutes ses conséquences. Il n'y a pas 36 solutions, confiées à la sortie Martin Fayulu. Il faut que l'on se voie dans le cadre d'un dialogue. Et celui qui ne vient pas n'est donc pas un patriote, explique l'opposant. Martin Fayulu, qui dit avoir évoqué avec le président l'initiative des églises protestantes et catholiques à travers leur pacte social, un dialogue qui pourrait aussi être sous l'égide de la médiation togolaise. C'est en tous les cas le souhait de Martin Fayulu, qui ajoute que le président se serait engagé lors de cet entretien à recevoir les religieux après son voyage la semaine prochaine à Kolwezi dans le sud-est du pays. Quant à la question d'une alliance d'alliance et d'une participation de Martin Fayulu à un gouvernement d'union nationale, ce n'était pas à l'ordre du jour, conclut l'opposant. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
RFI, 9h34 à Gitega. Comment la journée de vote s'est-elle passée hier au Burundi ? Élections législatives et municipales sans le principal parti d'opposition mené par Agathon Rwasa. La commission électorale et les autorités de Gitega parlent de scrutin libre et transparent. Un avis que ne partage pas et de loin le CDP, Conseil des Patriotes, un parti qui dénonce de nombreuses irrégularités. Anissé Nyonkourou est son président.
Il y a eu retrait dans certaines localités des lettres d'accréditation des mandatés des partis politiques pour que les opérations électorales se fassent à huis clos. Et deuxièmement, les bulletins de vote étaient cochés à l'avance et l'électeur venait et prenait un bulletin de vote déjà coché et mettait dans l'urne. Ça, c'est une grande tircherie qui a été observée un peu partout dans le pays. Et troisièmement, vers 16 heures, dans certaines localités, les mandataires politiques des partis politiques se sont vus jeter dehors pour que les décomptes se fassent à huis clos, à leur absence. C'est une grande tricherie. Les élections, en conclusion, ont été faites avec beaucoup, beaucoup d'irrégularités, beaucoup de tricheries. C'est donc une mascarade électorale.
L'opposant burundais Anissé Nyonkourou, joint par Esdras Ndikumana. Ils auraient dû être renouvelés l'an prochain au Gabon. Le président entame une procédure de dénonciation des accords de pêche signés avec l'Union européenne en 2021. Les autorités de Libreville parlent désormais de partenariats profondément déséquilibrés. Et in fine, peut-on lire dans le compte-rendu du dernier Conseil des ministres, pas assez profitable aux Gabonais. Un président du Gabon qui est depuis mercredi à Malabo, la Guinée équatoriale accueillera demain une conférence de chefs d'État de la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale. Et Brice Clotaire-Oligingema donc est arrivé un peu avant pour évoquer avec son homologue équato-guinéen le différent frontalier entre les deux pays et notamment la récente décision de la Cour internationale de justice, la CIJ, plutôt favorable à la Guinée équatoriale. Précision et explication avec François Mazet.
Désavoués par la CIJ après plus d'un demi-siècle de contentieux, les autorités gabonaises avaient fait profil bas et promis de jouer la carte de la diplomatie en poursuivant le dialogue avec leurs voisins. C'est ce qu'a fait Brice Clotaire-Oligingema en devançant le raout sous-régional de samedi pour s'entretenir avec son homologue Teodoro Obiang-Nguema. Une rencontre courtoise marquée par une volonté commune d'apaisement selon un cadre de la présidence gabonaise. Au cours de leur tête-à-tête, les deux dirigeants ont acté la mise en place d'un comité conjoint d'experts. Diplomate, géographe, juriste chargé de donner suite à la décision de la CIJ et d'aplanir le différend frontalier qui concerne aussi bien des zones maritimes que terrestres dans un état d'esprit de dialogue constructif et de coopération selon Libreville. Au Gabon, de nombreuses voix avaient dénoncé la décision de la Cour vue comme une attaque contre la souveraineté du pays alors que du côté équato-guinéen on avait choisi d'éviter le triomphalisme. D'ailleurs, Brice Clotaire-Oligingema a été reçu avec tous les honneurs. En marge de son entretien avec son homologue, plusieurs accords bilatéraux ont été signés dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie ou encore de l'agriculture.
François Mazet, la Centrafrique maintenant et la colère des employés locaux de la MINUSCA, la force de l'ONU dans le pays. Hier, une centaine d'entre eux a manifesté devant les locaux de la mission à Bangui. Ils dénoncent des licenciements abusifs. Reportage de Rolf-Steph Domialeux.
Armés de casseroles, banderoles et sifflets, les manifestants se sont postés devant le siège de la MINUSCA. Ils ont bloqué la circulation sur l'avenue Barthélemy Boganda pendant des heures. Thierry Bolobo est le délégué du collectif.
Il y a un abus de licenciement qui s'est manifesté au sein de la MINUSCA. On a travaillé à la MINUSCA, nous sommes des techniciens journaliers à la MINUSCA. Et on a travaillé pendant 8 ans, ils ont licencié plus de 176 personnes. Il n'y a aucun motif.
Pour le collectif, selon le droit centrafricain, les salariés licenciés doivent percevoir des indemnités. Emmanuel Maléassé.
Ce que moi et de toutes mes collaborateurs nous réclamons, c'est juste qu'ils payent nos droits légaux, qu'ils payent le dommage à intérêt et il nous donne quand même le certificat qui prouve que nous sommes de la MINUSCA.
Face à ces mécontentements, Joël Ndoli-Pierre, porte-parole intérimaire de la mission, apporte des précisions. décision.
Ces catégories de personnel sont recrutées pour des tâches ponctuelles selon des modalités qui ne prévoient ni renouvellement automatique ni indemnité de fin de contrat. Les décisions prises sont strictement conformes au règlement en vigueur au sein du système des Nations Unies. Elles ne traduisent ni une volonté d'exclusion, ni une mesure arbitraire, mais relèvent d'une gestion rigoureuse et équitable des ressources humaines.
La mission onusienne se dit ouverte à des discussions dans un cadre légal, mais le collectif a prévu d'autres manifestations dans les prochains jours. Rolf Esteve Domiale, Bongi, RFI.
Enfin, c'est aujourd'hui la Tabaski, la grande fête musulmane du sacrifice du mouton. Au Maroc, on parle aussi d'Aïd el-Kébir et l'Aïd, cette année, se déroule au Maroc dans un contexte très particulier de pénurie de bétail, à tel point que le roi Mohamed VI a appelé ses compatriotes à renoncer à l'abattage rituel pour préserver un cheptel affaibli par des années de sécheresse. Reportage à Casablanca de Mathias Reynal.
Au marché central, les boucheries tournent au ralenti.
Il y a des clients qui ont acheté le mouton vivant et d'autres qui l'ont égorgé avant l'Aïd. C'est n'importe quoi. Le sacrifice est annulé.
Ces derniers jours, la presse marocaine s'est fait l'écho de ces tentatives de contournement des directives royales. Saisie de moutons, camions remplis de bêtes interceptés à la sortie des grandes villes, marché aux bestiaux fermé par les autorités.
Ces gens ont fait augmenter les prix de la viande de mouton. La fête n'est pas annulée. On va aller à la prière, voir la famille, les amis, se rassembler. Ce n'est pas parce qu'on n'égorge pas qu'il n'y a pas de fête.
Quelques mètres plus loin, Mohamed, serveur dans un restaurant, est du même avis. Cette année, il va célébrer l'Aïd, mais sans mouton.
On va acheter des morceaux de viande de mouton ou de bœuf, on passera la fête ensemble et chacun rentrera chez soi.
Il défend l'appel lancé par le roi Mohamed VI.
Le cheptel est maigre et les prix sont élevés. Il y a des gens qui ont les moyens d'acheter et d'autres non. Donc il a bien fait. En faisant ça, on sera sur un pied d'égalité.
Pour rappel, le cheptel marocain a perdu plus d'un tiers de ses effectifs depuis 2016, conséquence notamment de la sécheresse et de la hausse des prix des aliments pour bétail. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
À Casablanca, au Maroc, où il est maintenant 8h42, et vous retrouvez tout de suite Julien Coquelroem pour la suite des RFI Matin.